VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 5 décembre 2016. À la une ce soir.
En Gambie, l'opposant Ousseynou Darbo obtient une remise en liberté sous caution 3 jours après la défaite de Yahya Jammeh à la présidentielle.
Les Ghanéens se rendent aux urnes mercredi. Johnny Dramani Mahama, de nouveau face au challenger de 2012, Nana Akufo-Addo.
Bilan des affrontements survenus ce week-end dans le centre de la RDC. On parle maintenant de 23 morts.
36 morts dans un incendie en Californie, dans l'ouest des États-Unis.
En Libye, les djihadistes subissent un gros revers dans leur bastion de Sirte.
En Syrie, l'armée de Bachar al-Assad, avec l'appui de la Russie, en passe de reconquérir le quartier est d'Alep. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En Gambie, un tribunal a ordonné ce lundi la libération sous caution du chef du principal parti d'opposition, Ousseynou Darbo, et de 18 co-prévenus. Ils ont été condamnés en juillet à 3 ans de prison ferme pour participation à une manifestation non autorisée. Ils ont obtenu la liberté sous caution en attendant leur jugement en appel dans une décision très attendue du juge 3 jours après l'annonce de la victoire d'Adama Barrow à l'élection présidentielle face à Yahya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans.
Le Ghana doit élire mercredi son nouveau président. Les deux principaux candidats, le président sortant John Dramani Mahama et l'opposant Nana Akufo-Addo, s'affrontent dans un climat plus tendu que d'habitude. Anastasie Tudiech.
Nana Akufo-Addo, 72 ans, est le candidat de l'opposition. Il joue sa 3e et peut-être dernière chance d'accéder à la fonction suprême. Il a accusé le parti au pouvoir d'encourager les violences et critique la mauvaise gestion du pays, exportateur d'or, de cacao et de pétrole, mais fortement endetté. Face à lui, le président sortant John Mahama, à la tête du pays depuis 2012, bat campagne sur des projets de nouvelles infrastructures et a promis d'éradiquer la corruption pendant son second mandat. Des violences sporadiques menées par des gangs surnommés les Macho Men pourraient éclater dans certaines régions. Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix mercredi, le Ghana devra procéder à un second tour courant décembre.
Le président sénégalais Macky Sall et le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian ont insisté ce lundi à Dakar sur la nécessité d'équiper les armées africaines et de renforcer les moyens des forces de paix face à la menace terroriste. La vérité, c'est que dans la plupart de nos pays, nos armées ne sont pas au point, a déclaré Macky Sall à l'ouverture du forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.
Week-end violent dans le Kasaï occidental, en République démocratique du Congo. Au moins 23 personnes ont été tuées dans des affrontements dans la région de Tchikapa, Claire Morin-Gibourg.
Le calme est revenu ce lundi matin après des violences qui ont opposé une milice locale aux forces de sécurité de la région. Les affrontements meurtriers ont été déclenchés par un conflit de succession entre un nouveau chef traditionnel et son oncle, l'ancien chef coutumier Mbaou Kanka, déchu après avoir été désavoué par sa famille. Furieux, celui-ci a rassemblé ses partisans contre ceux de Kwamina Sapou, autre chef traditionnel tué en août dans la province voisine du Kasaï central. Le fait que les partisans du chef Baou aient combattu avec les mêmes bandeaux rouges autour de la tête et les mêmes bâtons a semé la confusion au départ. Hubert Bingonvula, vice-gouverneur de la province du Kasaï, affirme qu'il y a eu 13 morts dans les rangs des forces de l'ordre, 10 morts du côté de la milice, ajoutant que l'ordre public a été rétabli.
L'actualité en Afrique toujours ?
Un défaut de manifestation interdite par les autorités de N'Djamena, une centaine de femmes syndiquées au Tchad sont entrées ce lundi dans le mouvement de contestation des mesures d'austérité. Payer les salaires, payer les bourses, les femmes refusent l'arbitraire, ont scandé les travailleuses qui ont répondu à l'appel de l'Union syndicale du Tchad. 11 opposants, dont 2 chefs de parti, sont toujours en détention après avoir été interpellés en marge d'un rassemblement interdit mi-novembre.
Le rapport final des observateurs de l'Union européenne sur la présidentielle au Gabon, qui devait être présenté mercredi, a été reporté au 12 décembre à la demande des autorités, a indiqué la délégation européenne au Gabon. La date prévue aurait coïncidé avec la visite d'État d'Ali Bongo en Chine du 6 au 8 décembre. Il n'est pas souhaitable que le rapport soit présenté en l'absence du chef de l'État, a estimé le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Billier-Binzier.
Un tribunal de Khartoum a relaxé 26 personnes qui étaient jugées pour avoir manifesté contre l'augmentation du prix de l'essence, selon les avocats de la défense. Les prévenus, parmi lesquels 12 femmes, avaient été arrêtées par la police en novembre à l'issue de protestations et accusées de troubles à l'ordre public.
Le parti d'opposition sud-africain Alliance démocratique a dénoncé ce lundi devant la justice la décision du gouvernement de se retirer de la Cour pénale internationale, estimant qu'il avait usurpé les pouvoirs du Parlement. Le parti a demandé à la Haute Cour de Pretoria l'annulation de la décision de retrait, estimant que le gouvernement de Jacob Zuma avait sapé l'autorité du Parlement qui a ratifié la décision de rejoindre la CPI en 1998.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Reprise totale de Sirte en Libye par le gouvernement d'Union nationale à l'issue de combats meurtriers. Les forces pro-gouvernementales ont perdu près de 700 hommes. Les djihadistes du groupe État islamique, dont le nombre de morts n'est pas connu, avaient conquis cette ville en juin 2015. Éric Manirakiza.
Effondrement total des djihadistes, a dit le porte-parole de l'opération militaire qui a annoncé le retour de la ville de Sirte dans le giron de l'État. Des dizaines de combattants se sont rendus, a-t-il précisé. Débutée le 12 mai, la bataille de Sirte a été rude face à des djihadistes déterminés à défendre farouchement leur position jusqu'au dernier mètre carré. Cette victoire renforce le gouvernement qui peine depuis son installation fin mars à Tripoli à asseoir son autorité. En revanche, elle ne sonne pas la fin de la présence d'un groupe djihadiste en Libye. Des combattants islamistes ont quitté Sirte et ont migré vers le sud, dans la zone dite Triangle du Salvador, à la frontière avec l'Algérie et le Niger, et ont lieu de contrebande d'armes.
En Syrie, les groupes rebelles ont annoncé ce matin qu'ils refuseraient de quitter la ville d'Alep. Cette réaction intervient suite à l'annonce par la diplomatie russe d'une série de discussions avec les États-Unis sur l'évacuation des rebelles d'Alep Est. Le point avec Dili Dico.
Les rebelles occupant l'est d'Alep ont affirmé qu'ils se battront jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils rejettent l'annonce de discussions entre Russes et Américains sur leur évacuation de la seconde ville du pays. Selon Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, les pourparlers russo-américains devraient débuter mardi ou mercredi à Genève. Il a ajouté qu'il s'agira de mettre en place tous les moyens pour faire partir tous les rebelles d'Alep Est et se mettre d'accord sur l'itinéraire de leur retrait et les délais. La réunion n'a pas été confirmée par Washington, mais le secrétaire d'État John Kerry avait annoncé vendredi une rencontre sur les moyens de mettre fin aux hostilités à Alep. Ces discussions vont se tenir dans un contexte difficile, avec l'annonce ce matin de la mort d'un médecin et deux infirmiers russes suite au bombardement par les rebelles d'un hôpital de campagne à Alep.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite a eu des entretiens au Qatar à la veille du sommet annuel des monarchies du Golfe à Bahreïn. Hier, le monarque se trouvait aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit de sa première tournée régionale depuis son accession au trône en janvier 2015. Après le sommet à Bahreïn, il doit se rendre au Koweït. Pour la première fois, une femme, en la personne de la première ministre britannique Theresa May, a été invitée à ce sommet alors que des conflits meurtriers se poursuivent en Syrie, en Irak et au Yémen.
Au Yémen, justement, le chef de l'État soutenu par Riyad, Abd Rabbou Mansour Hadi, formule des objections sur la feuille de route de l'ONU pour la relance des pourparlers de paix avec les rebelles chiites houthis. Le dirigeant yéménite a affirmé qu'il ne remettrait le pouvoir qu'à un président élu au terme d'une transition politique, alors que le plan onusien prévoit la nomination d'un nouveau vice-président qui remplacerait éventuellement M. Hadi, la remise des armes lourdes par les rebelles et leur retrait des territoires sous leur contrôle, dont la capitale Sanaa. Ce texte n'a jusqu'à présent pas été rendu public. La guerre au Yémen a fait plus de 7000 morts et près de 37 000 blessés depuis mars 2015.
Les Italiens ont massivement rejeté dimanche la réforme constitutionnelle qui prévoyait essentiellement de réduire les pouvoirs du Sénat ainsi que de limiter les attributions des régions et de supprimer les 110 provinces. Le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a aussitôt annoncé sa démission, tirant les conséquences d'un référendum sur lequel il s'était totalement engagé.
La transition se poursuit ici aux États-Unis, où le président élu Donald Trump a fait choix d'un ancien adversaire lors des primaires républicaines pour diriger le ministère du Logement et de l'Urbanisation. Le neurochirurgien Ben Carson avait abandonné la course en mars dernier pour soutenir la candidature de Trump. On s'attend à ce que le choix du secrétaire d'État soit annoncé bientôt. Jusqu'en fin de semaine, quatre candidats faisaient figure de favoris. Le sénateur Bob Corker, l'ancien maire de New York Rudy Giuliani, l'ancien directeur de la CIA, le général David Petraeus, et l'ancien candidat à la présidence qui a beaucoup critiqué Donald Trump pendant la campagne, Mitt Romney.
Le bilan du terrible incendie qui a endeuillé une fête dans le Vaisseau Fantôme, un collectif d'artistes à Oakland, près de San Francisco, a fait au moins 36 morts et devrait encore s'alourdir, ont prévenu les autorités.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
La République du Congo s'apprête à émettre 150 milliards de francs CFA d'obligations sur le marché régional. D'une valeur nominale de 10 000 francs CFA, ces obligations portent un coupon de 6,5% par an et ont une maturité de 5 ans avec un différé de remboursement d'une année. Les ressources mobilisées serviront à financer des projets de développement inscrits au budget 2016, à apurer partiellement la dette intérieure dans les factures auprès d'entreprises et des banques locales. La période de souscription court du 12 au 22 décembre 2016. La Côte d'Ivoire et le Rwanda s'apprêtent à accueillir le service de banque via le mobile M-Shwari que compte lancer dès 2017 Commercial Bank for Africa en partenariat avec l'opérateur de téléphonie mobile MTN qui possède des filiales dans les deux pays. Ce service permet aux clients d'emprunter à tout moment un minimum de 100 shillings via leur téléphone mobile. Les utilisateurs du service peuvent également ouvrir un compte d'épargne à partir d'un shilling et engranger des intérêts. Enfin, les bailleurs de fonds internationaux se sont engagés à mobiliser 6,4 milliards de dollars sur 4 ans pour relancer l'économie malgache. C'est une vraie aubaine pour la Grande Île qui n'espérait que près de 5 milliards de dollars pour financer son plan de développement. Cette relance pourrait ramener les investisseurs qui avaient fui le Madagascar suite à la crise politique qui avait provoqué une grave crise économique.
On fait place au sport et à Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
La grande nouvelle du jour, Sepp Blatter toujours hors jeu.
Le tribunal arbitral du sport a maintenu la suspension de 6 ans de toute activité liée au football, frappant l'ex-président de la FIFA, Josep Blatter, contraint à la démission alors qu'un scandale de corruption sans précédent secouait son instance. Monsieur Blatter avait été suspendu en décembre 2015 par la justice interne de la FIFA à la suite de ce paiement controversé de 1,8 million d'euros à Michel Platini, l'ex-président de l'UEFA également suspendu.
Ligue des champions ce mardi, 6e et dernière journée.
Dans le groupe A, Arsenal et le PSG déjà qualifiés vont jouer à distance le duel de la première place. Le PSG qui accueille le Ludogorets et Arsenal en déplacement en Suisse chez le FC Bâle. Dans le groupe B, le Dynamo Kiev face à Besiktas et Benfica et Naples qui s'affrontent au Stade d'Alalus à Lisbonne dans un match décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le vainqueur de ce choc sera premier du groupe. À suivre également dans le groupe C, Manchester City face au Celtic et puis Barcelone qui reste sur 3 matchs nuls espère soigner son moral en s'imposant en Ligue des Champions dans un match sans enjeu contre les Allemands de Mönchengladbach. À noter que Luis Enrique, l'entraîneur du Barça, va titulariser Lionel Messi. Enfin dans le groupe D, un match sans enjeu entre le Bayern et l'Atlético Madrid puisque les Espagnols sont assurés de terminer premier du groupe, les Allemands deuxième. Deux équipes éliminées, le PSV Eindhoven face à Rostov.
Parlons de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, le joueur vedette d'Oklahoma City, Russell Westbrook, est devenu le premier joueur depuis Michael Jordan en 1989 à enchaîner 5 matchs consécutifs avec des triples-doubles, une prouesse statistique rarissime. Westbrook a conduit Oklahoma City à sa 5e victoire consécutive face à la Nouvelle-Orléans, 101 à 92. Westbrook a inscrit 28 points, 17 rebonds et 12 passes. C'est exceptionnel.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault, que l'on retrouve à 19h, temps universel, dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, le Sénégal.
Le forum sur la paix et la sécurité s'est ouvert ce matin à Dakar. Le président Macky Sall a renouvelé son appel en faveur d'une lutte contre la radicalisation des jeunes. Une étude récente de l'Institut Timbuktu révèle que certains quartiers de banlieue pourraient être vulnérables au radicalisme, même si le Sénégal est connu pour sa tolérance religieuse. Abdourahman Dia a joint à Dakar le sociologue Dji Diakaté.
Le Sénégal a toujours joué un rôle important pour maintenir les grands équilibres. À partir du principe culturel qu'il est possible de faire en sorte que l'homme respecte son prochain, que les sociétés se respectent mutuellement, qu'il est possible que l'on aille vers cette conception-là qui voudrait que ce qui fait la beauté d'un tapis, que ça soit la variété de ses couleurs, que l'on respecte la différence. Ça, c'est un principe culturel fort auquel les Sénégalais sont attachés.
L'islam sénégalais a toujours été inspiré par le soufisme, mais ces dernières années, d'autres courants ont commencé à prendre pignon sur rue. Est-ce que cela est une source d'inquiétude pour vous?
En réalité, vous avez raison de le dire, l'islam au Sénégal a toujours été un islam soufi. La pratique islamique se faisait essentiellement au niveau des confréries, attachées à la philosophie de l'imam Malik, qui mettait essentiellement l'accent sur l'idée que l'individu doit développer l'ascétisme religieux, se détacher le plus possible des plaisirs mondains, ne pas s'intéresser aux problèmes qui traversent l'univers de façon matérielle, mais plutôt mettre l'accent sur l'attention de l'âme, sur l'attention de l'esprit. Aujourd'hui, on a noté de plus en plus des jeunes qui ont été formés dans les universités, dans certaines universités arabes, qui reviennent avec une nouvelle version, avec une nouvelle lecture de l'islam. Alors ces jeunes-là constituent un bastion de plus en plus important qui ont tendance à suivre une autre voie, une autre idéologie, suivie maintenant en cela par d'autres jeunes frappés par le chômage et la pauvreté. Et c'est à ce niveau-là qu'ils ont tendance à recruter. Et c'est là où il y a aujourd'hui la nécessité de mener, si vous voulez, un travail de sensibilisation et d'éducation pour éviter le développement d'un foyer qui s'oriente vers un islam radical.
Si je vous comprends bien, le modèle sénégalais de tolérance religieuse est peut-être en danger. Quelle est la solution? Elle ne peut pas être que militaire.
Non, elle n'est pas une solution militaire, elle est une solution qui passe par l'éducation. Le président de la République parle de territorialisation des politiques publiques, donc il faut aller vers les territoires, il faut aller vers les localités les plus éloignées, très bonne chose, mais il faut donner un contenu à cela en faisant en sorte que les populations au niveau local puissent participer à la mise en place des politiques publiques les concernant.
C'était le sociologue Dji Diakaté à Dakar au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Crise en République démocratique du Congo. Certains Congolais que Eric Manirakiza a rencontré ici à Washington en marge de la conférence à l'initiative de l'Association des études africaines demandent aux acteurs politiques et de la société civile d'éviter la violence dans le règlement du conflit en RDC.
Kasongo Kapanga enseigne à l'université de Richmond en Virginie. Le président Joseph Kabila était plus malin que ses adversaires, dit-il, qu'il faut se résoudre aux conclusions du dialogue politique.
Moi, je crois que tout le monde est tombé dans le piège qu'il a tendu. On ne peut pas commencer un dialogue, se retirer, et puis des problèmes de vacances et qui ne permettraient pas une vacance comme telle.
Cependant, M. Kasongo estime que la même stratégie serait contre-productive après 2018.
Ce sera difficile qu'il reste au-delà de 2018, mais on est en train dans un cycle et il faut que le cycle se termine pour terminer la crise.
Faut-il rediscuter l'accord du dialogue?
Dans politique, il ne faut jamais dire jamais. Pour que si les choses, s'il y a une crise, je crois qu'on a le droit, le devoir de rééquilibrer les choses pour voir comment les choses peuvent être relancées. Bon, Je n'ai pas d'injonction à faire à qui que ce soit qu'on dise qu'il faut, qu'il faut qu'on fasse ceci, bien qu'on fasse cela.
Pour bienvenue, Matanzonga, étudiant à l'université Santa Clara.
Je suggère à ce qu'il y ait un dialogue inclusif de toutes les forces politiques et sociales en présence.
Enfin, un autre son de cloche avec Kasereka Kasomo, pasteur dans une église à Los Angeles.
Quand on n'a pas respect de la vie de quelqu'un ou des gens, tant mieux, combien de gens meurent sur la rue. Et je pense que ça nous interpelle tous. Et c'est ce que nous voudrions voir, comment nous pouvons éradiquer de telles choses. Et encourager les gens à regarder la valeur des vies humaines, une vie coûte trop cher. Et puis aussi, aimer ce pays, le Congo, penser à sa construction. Je pense que ça peut changer la donne. Si seulement nous pourrions apprendre aux gens à aimer notre pays et à aimer les vies humaines.
Le dialogue politique conclu entre la majorité présidentielle et une frange de l'opposition est combattu par le rassemblement dirigé par Étienne Tshisekedi. La manifestation annoncée après le 19 décembre pour faire partir Kabila est donc une manif à haut risque. Eric Manirakiza, Washington, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Cap sur le Bénin où des décisions prises par le président Patrice Talon font grincer des dents. Certains pensent que le régime actuel n'a rien de plus convaincant que son prédécesseur qui a longtemps réprimé les libertés individuelles et collectives, la fermeture de plusieurs chaînes de télévision et de stations radio, dont celle de l'opérateur économique Sébastien Adjavon, est perçue comme un acharnement. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adam.
La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la tête des auditeurs et téléspectateurs qui n'ont pas compris pourquoi, subitement et sans aucun avertissement, des scellés ont été apposés sur les portes de plusieurs chaînes de télévision et de stations de radio appartenant curieusement à des opérateurs économiques dont le plus connu reste Sébastien Adjavon, allié et ami du chef de l'État et qui, au détour d'une affaire de drogue dans laquelle il a été nommément cité, avait décidé de prendre ses distances avec le pouvoir. Au sein des populations, les avis sont partagés sur cette fermeture de ses organes de presse.
Si ces radios ou télévisions sont fermées, c'est qu'ils n'ont pas respecté les clauses.
Vous savez quoi? Moi, j'accuse à ce niveau la RAC. Ces gens aussi ont investi dans leur truc et on les dit brusquement de fermer. Moi, je vous dis franchement, ça ne nous honore pas. Nous qui sommes les consommateurs, respectez-nous au moins.
La RAC ne peut pas se lever d'un seul coup et fermer cette télévision-là sans qu'ils ne soient informés. C'est une mise en demeure.
Les associations fêtières des médias ont tout fait de dénoncer cette mesure brusque et selon leur dit, inopportune qui intervient à un mauvais moment. Même si elles reconnaissent que force doit rester à la loi, elles pensent tout de même que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication aurait pu se passer d'une telle mesure conservatoire que lui confère la loi. Dans le rang de la société civile, on se désole de cette décision, véritable restriction des libertés.
Je ne sais pas si c'est un excès de zèle, mais il y a quand même quelque part que les motivations, si on a toute analyse faite, les motivations sont ailleurs. Et on peut accréditer la thèse, n'est-ce pas, de l'intimidation, du trafic d'influence, de la volonté de verrouiller, de bâillonner. Cette thèse-là est une thèse plausible.
Nous, au niveau de la CGTB, on n'hésitera pas un seul instant à apporter notre soutien indéfectible à tous les travailleurs en lutte pour la liberté, tous les travailleurs privés d'emploi, parce qu'il est inconcevable que le nouveau départ puisse amener plus de chômage qu'on ne l'était avant.
Même rengaine au niveau des responsables des organes de presse fermés, donc la Mabalo, directeur de Radio Soleil FM, appartenant à Sébastien Adjavon, se dit déçu et confus.
Nous n'étions pas en train d'émettre un programme attentatoire à la paix. Nous n'étions pas en train d'émettre un programme qui insulte qui que ce soit. Nous sommes surpris d'entendre parler de mesures conservatoires. Nous ne comprenons pas la raison invoquée par la HAC pour venir fermer les locaux.
Mais le président de la HAC, Adam Bonitessi, se dit imperturbable. Pour lui, il ne s'agit ni d'une violation de quelque liberté que ce soit, ni d'un acharnement contre les opérateurs économiques.
L'acte qui a été pris, ce n'est pas une sanction. C'est un acte pour que les gens soient obligés de venir se conformer à ce que les tests ont dit. Il ne peut pas nous informer, il doit demander une autorisation. La HAC autorise que le Bénin est un pays souverain, qu'il y a des textes qu'il faut respecter. Ce n'est pas une acharnement, il dit non, j'ai écrit. Les promoteurs au moins sont informés.
Mais en attendant, les spéculations vont bon train sur le pouvoir qui aurait décidé de bâillonner la presse béninoise. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Parlons maintenant de la 16e édition du Festival international du film de Marrakech qui s'est ouverte vendredi et qui rendra jusqu'au 10 décembre hommage au cinéma russe. 28 pays sont représentés dans la sélection officielle du festival. 14 longs métrages sont en lice pour l'Étoile d'Or, mais aucun film marocain ni africain ne figure sur la liste, hormis bien sûr une coproduction sud-africaine-américaine. Saloua Jafari nous en dit plus.
Le festival du film de Marrakech s'est ouvert vendredi dernier sous une pluie battante. La météo n'était pas la seule à afficher une grise mine. Les professionnels du film marocain ne se sont pas gênés pour faire part de leur frustration, à commencer par Mohamed Abdrahman Tazi, président de la Coalition nationale pour le développement de l'industrie du cinéma et de la radiodiffusion.
Nous dénonçons cette attitude, nous disons que ce n'est pas acceptable parce qu'il y a beaucoup d'argent dépensé pour promouvoir le cinéma marocain, même si ces montants doivent être augmentés. Il y a de bons films, nous ne pouvons pas les juger et dire qu'ils ne peuvent pas participer à ce festival en raison de leur faible niveau.
Pourquoi ? Eh bien, le comité organisateur du festival estime tout simplement que les Marocains ne sont pas prêts, comme nous l'explique Mohamed Salim Lhaq Fassil Fehri, vice-président de la fondation du festival.
Nos grands réalisateurs, ceux qui ont l'habitude de venir ici, ne sont pas prêts. Leurs films ne sont pas prêts. Nourdin Khamari n'est pas prêt, Daoud n'est pas prêt, Fawzi Ben Saïdi n'est pas prêt, Nargis n'est pas prête, Leila Kilani n'est pas prêt, et j'en passe. Donc ce que nous avons vu n'a pas convaincu pour être au niveau de la compétition et des autres films qui sont en compétition.
Malgré ce que beaucoup qualifient de boycott, les acteurs marocains ont été nombreux à assister à la cérémonie d'ouverture du festival qui met à l'honneur le cinéma russe cette année. Le film Zoologie d'Ivan Verdowski est en compétition pour l'Étoile d'Or, l'histoire de Natacha, une employée du zoo d'une petite ville russe. Autre film, King of the Belgians, le roi des Belges de Peter Brossens, et Jessica Woodworth, ou encore le seul film africain de la sélection du Sud-Africain Oliver Schmidt, Shepherds and Butchers, des bergers et des bouchers. Le jury est éclectique, il est présidé par le cinéaste hongrois Bellatar, qui devra faire son choix parmi 14 longs métrages. Le festival a rendu un vibrant hommage au réalisateur, scénariste, producteur et comédien japonais Shinya Tsukamoto, maître incontesté du cinéma underground, avec des films relatant la brutalité de la vie moderne.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma. À la console, c'était John Dryden. À la présentation, Nathalie Barge et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.